Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Comment pouvons-nous éviter de scandaliser notre prochain? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous aidera à marcher dans l'amour aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je trouve tellement que Paul est un modèle à imiter. On peut le voir à travers les enseignements qui nous sont donnés jour après jour dans ses épîtres aux Corinthiens. Alors voici nos questions pour aujourd'hui. À quelle sorte d'activité est-ce que les croyants devraient participer? Est-ce que notre liberté devrait nous guider dans le choix de nos activités? Qu'est-ce qui doit déterminer si nous devons ou ne devons pas faire une chose? Comment pouvons-nous éviter de scandaliser notre prochain? Pourquoi devons-nous chercher l'avantage des autres avant le nôtre? Comment pouvons-nous être des modèles pour les autres? Est-ce que Dieu s'intéresse à ce que nous portons et à notre coiffure? Est-ce que la Bible considère qu'un homme est normal si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas son maître? Est-ce qu'une femme qui a une personnalité très forte devrait se marier? Restez des nôtres, on est sur le point de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu par la bouche du pasteur Régent Joly. Et c'est à ne pas manquer. Mais premièrement, prions. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. On a besoin d'être fortifiés dans la foi. On a besoin que tu nous enseignes de connaître la route à suivre à chaque jour. Instruis-nous, Seigneur, parle-nous. Parle-nous de toi, qu'on puisse mieux te connaître. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la plupart des Israélites qui se sont abreuvés au rocher spirituel, Jésus-Christ, ne furent pas agréables à Dieu. Le privilège d'avoir été guidé par le Seigneur Jésus ne les a pas immunisés de l'échec. Nous avons aussi examiné le mot « baptisé » qui veut dire « identifier ». Les Israélites étaient identifiés à Moïse. C'est pourquoi le texte dit qu'ils furent baptisés en Moïse. Le baptême d'eau est une identification à Jésus-Christ, alors que le véritable baptême est celui de l'Esprit qui nous incorpore au corps de Jésus-Christ. C'est ce dernier baptême qui nous sauve. Paul dit que les événements de l'Ancien Testament sont racontés pour notre enseignement. Il nous a aussi conseillé de prendre garde, de ne pas tomber et de fuir l'idolâtrie. Il faut fuir la tentation, chers amis. C'est souvent le seul moyen de ne pas y céder. Maintenant, nous reprenons au verset 23 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Paul revient sur ce qu'il a dit au début de la section sur la liberté chrétienne. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il est préférable de participer à des activités utiles. Paul affirme qu'il a la liberté de faire les choses au sujet desquelles la Bible n'est pas claire. Elle ne les approuve ni ne les condamne. Elle est silencieuse à leur sujet. Par exemple, Paul dirait « Si je pensais que je devrais aller voir les Jeux, j'irais ». Je pense que Paul a dû assister à des compétitions olympiques, car il emploie souvent des illustrations provenant de l'athlétisme. De nombreuses épreuves devaient se dérouler dans les différents stades de l'époque. Paul dit que tout lui est permis, mais que tout n'est pas utile, car certaines choses pourraient scandaliser un croyant faible dans la foi. Il dit que tout lui est permis, mais que toute chose n'édifie pas. Ces choses ne l'affermissent pas dans la foi. Un jour, un jeune pasteur demanda à J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, s'il était permis d'assister à un match de baseball. Le pasteur McGee savait que le jeune homme assistait à des matchs. Il lui répondit, « Même si j'ai toujours aimé faire de l'athlétisme, je n'ai jamais vraiment été un spectateur de ces événements. Je ne suis pas intéressé à regarder quelqu'un jouer au football ou au baseball, surtout lorsque les athlètes sont payés pour le faire. J'ai toujours joué pour le plaisir et j'aimais le faire. Cependant, lorsque j'allais à l'école, j'ai lu un bon livre qui recommandait qu'un prédicateur restreigne ses activités à celles qu'il peut utiliser dans son ministère. Ce qu'il voit, où il va, ce dont il fait l'expérience, parce que sa vie entière est son ministère. Tout devrait être de l'eau à son moulin, servir à son ministère. Autrement dit, un prédicateur devrait pouvoir efférer à des exemples de toute sa vie lorsqu'il prêche, sans avoir de compartiment secret. Donc, au sujet du baseball, le pasteur McGee dit au jeune pasteur, « Si tu peux utiliser une joute de baseball, et tu le peux, il n'y a rien de mal à y aller. Tu pourrais tirer de nombreuses illustrations d'une partie de baseball. Cependant, ce n'est peut-être pas la chose la plus utile pour toi, car cela pourrait avoir une mauvaise influence sur une autre personne. » Donc, Paul donne un principe pour nous guider. Verset 24. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Notre liberté doit être restreinte par l'amour. Le croyant a une très grande liberté en Jésus-Christ. Cependant, nous devons veiller au bien de notre prochain. » Donc, ce n'est pas l'usage de notre liberté qui doit guider nos actions dans notre vie chrétienne. Notre liberté doit être restreinte par l'amour. Le chrétien ne doit pas se laisser entraver par du légalisme et des règlements rigides. C'est l'amour qui doit le restreindre. Il doit tenir compte de son influence sur les autres. C'est à cela que pense Paul dans ses versets. Versets 25 et 26. « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Le chrétien peut jouir de toutes choses créées par Dieu, de la beauté et des produits de la nature. Tout cela vient de Dieu. Maintenant, Paul a un conseil pratique pour nous. Il dit que lorsque nous sommes invités pour un repas, de ne pas dire à notre hôte, « C'est un excellent steak que tu me sers aujourd'hui. D'où vient-il? Mon boucher n'a pas d'aussi bonne viande. » Votre ami pourrait vous répondre qu'il a acheté la viande au temple. La meilleure chose à faire est de manger sans poser de questions. Paul illustre un autre exemple, verset 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Si vous êtes invité chez un non-croyant, mangez ce qu'il vous sert sans poser de questions. Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Maintenant, un autre principe entre en jeu. Nous sommes devant une situation différente. Paul a conseillé de manger sans poser de questions. Mais supposons qu'une autre personne assise à la table te voit manger de la viande et te dise « Cette viande a été sacrifiée aux idoles ». Alors, vous ne devriez pas manger la viande, pas parce que c'est mal d'en manger, mais parce que vous pourriez scandaliser la personne qui vous a donné le renseignement. Ceci n'est pas à cause de votre conscience, mais à cause de la conscience de l'autre que vous devriez éviter de manger de la viande. Aucun règlement ne vous interdit de manger de la viande, mais par amour pour votre frère, pour aider votre frère dont la conscience le dérangerait, vous devriez éviter de manger de la viande. C'est cela l'idée de l'apôtre Paul. Permettez que j'illustre avec une anecdote du pasteur McGee. En Géorgie, on fabrique du vin avec un fruit sauvage qui ressemble au raisin. Un pasteur, ami du prédicateur McGee, fut invité à manger chez un ancien de son église. On lui servit un verre de ce vin aux fruits sauvages. Il ignorait ce que c'était, mais, en le goûtant, il se rendit compte qu'il contenait de l'alcool. L'ami du pasteur McGee n'était pas une personne super spirituelle, mais il déposa le verre après avoir goûté son contenu. L'hôte lui demanda, « Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas cela? » L'invité répondit, « Je le trouve délicieux, mais je me rends compte que c'est un vin, et je pense qu'étant chrétien, je ne devrais pas en boire. » Il y eut un silence embarrassé, mais il a passé son message. Le pasteur McGee pensait qu'il avait fait la bonne chose. Est-ce que ce pasteur avait le même droit que l'ancien de boire du vin? Il avait un tel droit, et cela ne fait aucun doute. Mais la vie de ce pasteur servait aussi de modèle, et c'est pourquoi il ne l'a pas bu. De nombreux chrétiens légalistes jugent les autres sévèrement. « Je ne fais pas cela, et tu ne devrais pas le faire non plus. » Cependant, si ces chrétiens étaient motivés par l'amour, ils adopteraient une meilleure approche. C'est l'amour pour les frères qui doit guider notre conduite. Verset 29. « Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Pourquoi est-ce que je devrais laisser un frère faible, dans la foi, restreindre ma liberté? » Verset 30. « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? » Paul demande, « N'est-il pas injuste que je sois condamné à cause de la conscience d'une autre personne? » Il répond à sa question en énonçant un grand principe. Verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu, chers amis. Paul a déjà dit que tout était permis, mais que tout n'était pas utile ou n'édifiait pas. Maintenant, Paul ajoute un autre principe. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà une bonne question pour déterminer si je devrais faire une chose ou non. Puis-je le faire pour la gloire de Dieu? Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne vont pas à l'Église pour la gloire de Dieu. Ils y vont pour être bien vus, pour critiquer ou pour faire de la médisance. Avec de tels motifs, il est préférable de rester à la maison, chers amis. Tout ce qu'un croyant fait devrait être fait pour la gloire de Dieu. Verset 32. Ne soyons scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Nous devons éviter de scandaliser notre prochain. Oui, chers amis, nous devrions éviter de scandaliser les gens avec qui nous avons des contacts. Par exemple, si j'invite un ami juif à manger chez moi, je ne lui servirai pas de jambon, surtout s'il est pratiquant. Maintenant, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, mais nous pouvons faire attention à la présence des personnes que nous rencontrons. Un jour, des jeunes un peu rebelles contre la société visitèrent une église. Des membres de l'église leur reprochèrent leur façon de s'habiller, et les jeunes se plaignirent au pasteur. Qui avait raison? Les jeunes ou les membres de l'église? Bien, il y avait des torts des deux côtés. Ces jeunes n'auraient jamais dû être repris devant les autres. Par contre, les jeunes savaient que leur façon de s'habiller déplairait à des gens dans l'église. Donc, ils auraient dû en tenir compte. Ni l'un ni l'autre des deux groupes n'a agi avec amour. Nous devons éviter de scandaliser notre prochain. Verset 33. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu avant tout. Nous pouvons nous acquitter de nos tâches quotidiennes pour la gloire de Dieu. Nous devrions éviter de faire tout ce qui ne peut être fait pour la gloire de Dieu. C'est en suivant ce principe que nous sommes un modèle de vie chrétienne pour les autres, et ainsi, ceux qui sont perdus peuvent être attirés vers le Seigneur Jésus. Un jour, un chrétien zélé distribuait des traités dans la rue. Il en donna un à un homme. Il le lui remit en disant, « Qu'est-ce que c'est ?» Le chrétien répondit, « Un traité qui explique comment être sauvé. »« Je suis analphabète, » dit l'homme. « Voici ce que je vais faire. Je vais t'observer vivre. » En fait, notre vie impressionne davantage les autres qu'un petit bout de papier. Nos gestes leur parlent davantage que nos paroles. C'est bien de distribuer des traités, mais nous devons démontrer la réalité du salut. Débutons la lecture du prochain chapitre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Soyez, mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Très peu de chrétiens peuvent vraiment dire cela. Certains d'entre nous sont hésitants à le faire, d'autres n'oseraient même pas. Cependant, nous devrions tous suivre le Seigneur Jésus à l'exemple de Paul. Dieu s'intéresse à ce que nous portons ainsi qu'à notre coiffure. Ceci termine la section qui traite de la liberté chrétienne. Maintenant, Paul va aborder un autre sujet sur lequel il fut questionné, soit l'habillement des femmes. Certains d'entre vous pensent peut-être que le sujet est trop sans importance pour que Dieu s'y intéresse. Mais ce n'est pas le cas. Dieu s'intéresse à ce que nous portons et à notre coiffure. Et même vos cheveux sont tout comptés, nous dit l'évangéliste, selon Matthieu chapitre 10, verset 30. Dieu s'intéresse à tous les détails intimes de notre vie. Les médias s'intéressent énormément à la mode et à la coiffure. Dieu en a aussi à dire sur ce sujet. Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Jusqu'ici, Paul n'a pas fait beaucoup de félicitations aux Corinthiens. Cependant, Paul a un sujet de louange. Les Corinthiens prient pour lui, le soutiennent et suivent ses instructions. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. De nombreuses personnes aiment mettre l'accent sur la partie centrale de ce verset. L'homme est le chef de la femme. Cependant, lorsque l'on tient compte de tout le verset, nous remettons la vérité à sa place. En fait, Paul établit un autre grand principe. Nous voyons que Paul établit une échelle d'autorité afin qu'il y ait de l'ordre dans l'Église et les foyers. Ce principe est important, autant pour l'Église que le foyer. Un pasteur avait des ennuis avec son Église. En fait, il avait trop de chefs et pas assez d'Indiens. Trop de personnes voulaient diriger l'Église. Aujourd'hui, des Églises donnent des cours de leadership, mais j'aimerais savoir où elles voient cela dans la Bible. C'est en grandissant dans le Seigneur et en lui obéissant que l'on devient un modèle, et non seulement en assistant à un cours dans une classe. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de former des dirigeants, mais plus de chrétiens qui marchent selon la Bible. Voilà ce qui est important. Il faut mettre l'accent là où la Bible le met. Le mot important du texte est « chef ». Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Parfois, le mot « tête » est employé à la place de « chef ». Le chef donne les directives à tout le corps. Le texte ne dit pas que le Seigneur Jésus est le chef de tous les hommes croyants. Le texte dit que le Seigneur Jésus est le chef de tous les hommes en général. Il est normal que Jésus-Christ soit le chef de tout homme. C'est l'ordre établi par Dieu. Tant qu'un homme n'a pas le Seigneur Jésus comme maître, il n'est pas un homme normal. Des hommes ont l'alcool comme maître, d'autres leur passion, d'autres leur convoitise. Tous les hommes devraient avoir Jésus-Christ comme maître. Augustin a dit, « Le cœur de l'homme ne peut se reposer tant qu'il ne trouve pas le repos en toi. » Il n'y a point de repos pour le cœur de l'homme tant que le Seigneur n'en est pas le maître. Les hommes qui ont accompli de grandes choses pour Dieu avaient Jésus-Christ comme chef. L'important n'est pas de savoir si un homme est chrétien, mais si Jésus-Christ est son chef. L'homme est le chef de la femme. Une analyse du texte grec démontre que ce n'est pas un énoncé absolu. Il réfère au mariage, alors que la femme répond ou réagit à l'amour de son mari. Il est normal que la femme soit soumise au mari dans le mariage. Si une femme ne peut pas admirer ou respecter un homme, elle ne devrait pas le suivre ni l'épouser. Chaque fibre chez une vraie femme réagit à son époux qu'elle aime. Par contre, il doit être l'homme prêt à mourir pour elle. Rappelons-nous, Éphésiens chapitre 5, verset 25. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un pasteur a rencontré une femme qui avait une personnalité très forte et de grande qualité et qui ne s'est jamais mariée. Il lui demanda pourquoi elle était demeurée célibataire. Elle répondit, « Je n'ai jamais rencontré un homme qui pouvait me maîtriser. » Donc, elle ne s'est jamais mariée. Avant de rencontrer un tel homme, cette femme ferait une erreur de se marier. Si elle épouse un faible, elle aura des ennuis à partir de ce moment-là. Dieu est le chef de Christ. Nous sommes devant un mystère. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, verset 30. De plus, il a dit, « Le Père est plus grand que moi. » Jean chapitre 14, verset 28. En ce qui concerne la rédemption, le Seigneur Jésus s'est volontairement soumis au Père et il s'abaissa au-dessous des anges. Il est venu habiter parmi les humains. Nous avons cette exhortation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Maintenant, Paul va appliquer le principe à la situation de Corinthe. Dans cette ville, une femme non voilée était une prostituée. Nous ne sommes plus dans le même contexte culturel, mais le principe s'applique toujours. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Les rabbins enseignaient aux hommes à se couvrir la tête à cette époque. En fait, Paul dit qu'il interprétait mal le fait que Moïse ait porté un voile et la raison pour laquelle il l'a fait. Et nous, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Ceci réfère à la fois que Moïse descendait de la montagne après une rencontre face à face avec Dieu. Lorsqu'il est descendu, son visage rayonnait. Ce phénomène cessa après un temps. Donc, il couvrit son visage afin que le peuple ne voie pas le rayonnement glorieux disparaître. Exode, chapitre 34, verset 33 à 35. Paul dit que les hommes ne devraient pas se couvrir la tête. Un homme créé à l'image de Dieu, qui est racheté par le sang du Seigneur Jésus, doit avoir la tête découverte, ce qui est un symbole de dignité et de liberté. Il ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie ou prophétise. Lorsqu'il prie, il parle à Dieu en faveur des hommes et il intercède pour eux. Lorsqu'il prophétise, il parle s'adressant aux hommes au nom de Dieu. Lorsqu'il prie ou prophétise, sa tête ne doit pas être couverte. C'est le principe que l'apôtre Paul donne ici lorsque les hommes sont rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Dans les assemblées, dans l'Église du Christ, les hommes prient et prophétisent la tête découverte. Cher ami, laisse-moi te poser une seule question. Qui est le chef de ta vie? Dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, nous lisons, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ce texte nous parle de la personne de Jésus. Il est le véritable chef. Il est la tête. Et c'est de lui que devrait découler ma façon de vivre. Prochaine émission, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 à 16.
Merci, Régent. Mes amis, au début de l'émission, je vous disais que Paul était tout un modèle à imiter. Je pense que vous devez être d'accord avec moi après avoir entendu tout ce que Dieu nous a enseigné à travers sa première épître aux Corinthiens aujourd'hui. Régent nous a cité tout ce que Paul a dit concernant le fait de marcher dans l'amour, de tout faire pour ne pas scandaliser un frère. Ce n'est pas surprenant que Paul ait dit, dans cet épître, au 11e chapitre, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu les épîtres de Paul, surtout des versets comme celui que je viens de vous lire, je trouvais Paul un peu orgueilleux et prétentieux. Mais ce n'a pas été bien long avant que je réalise que Paul disait tout simplement la vérité sans prétention. Je ne sais pas si j'oserais en dire davantage à mon sujet. Si je serais capable de dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Premièrement, je pense à toute la pression que ça mettrait sur moi de faire une telle déclaration. Ouf! Je crois que je vais plutôt concentrer mes efforts à tout faire pour imiter le Seigneur Jésus. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul faisait. Jésus est le grand modèle, parfait en toutes choses, le seul à être venu sur cette terre sans jamais pécher. Et pourtant, il a été tenté en toutes choses. Encore une fois, c'est Paul qui nous enseigne ceci dans son épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 15 et 16. Il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et il ajoute quelque chose de bien réconfortant. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quel amour! C'est l'amour de Dieu. Mon ami, comprends-tu ce que c'est de s'approcher du trône de la grâce de Dieu? Si tu es croyant, je pense bien que tu le sais. Mais si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, Dieu t'invite, en ce moment, approche-toi du trône de la grâce. Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et le cadeau que Dieu veut te donner, c'est l'assurance qu'un jour, quand tu mourras, tu iras tout droit au ciel pour passer l'éternité avec Dieu. Tu peux recevoir ce cadeau maintenant. Tu n'as pas à le mériter. Jésus l'a payé en entier quand il est mort sur la croix pour toi, pour moi. Après sa mort, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et maintenant, il est vivant et il t'offre la vie éternelle. Pourrais-tu refuser une telle offre? Mon ami, repens-toi. Détourne-toi de tout ce que tu connais comme étant péché dans ta vie. Demande pardon à Dieu et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est pour toi qu'il a souffert. Et maintenant, il est vivant, il s'offre à toi. Il veut être ton sauveur, ton maître. Alors, reçois Jésus comme sauveur et maître et reçois ce beau don. Reçois le don gratuit de la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement, on est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous, parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître, et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.